Morning Edition from NPR News.
Let's see things on in the house. Hey,
I'm Radio Rosalie Paris.
Produce get in the radio.
France Inter, le 18-20.
Comment informer en Afghanistan? Comment protéger ceux qui informent? Depuis le retour des talibans, quels journalistes ont réussi à s'enfuir? Quels sont ceux qui restent et tentent coûte que coûte d'informer? Quels au masculin? Parce que malheureusement, les femmes, elles, n'ont guère le choix. Exercer leur profession est devenu impossible. Nous allons longuement essayer de comprendre comment l'information peut survivre au régime taliban avec un témoignage, celui d'un homme qui a dû fuir au plus vite avec Wilson Fache, qui couvre pour nous l'Afghanistan sur France Inter avec Christophe Deloire aussi, de Reporters sans frontières. Le bruit du monde ce soir, c'est Sous les radars et Sébastien Logeni qui vient avec l'enterrement du Pol Pot des Andes, qui vous racontera l'industrie réellement de la tricherie aux examens. Elle commence au Kenya et une histoire aussi de sosie et de carpaccio de chameau. 18h50, l'Amérique selon Biden et Sébastien Paour avec un caillou démocrate dans la chaussure de Biden et Obama à la rescousse en Californie. Vous verrez aussi comment fonctionne l'école post-Covid à New York. 18h55, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four et la Norvège qui vote en se demandant si elle ne va pas scier la branche sur laquelle elle est assise depuis si longtemps, c'est-à-dire le pétrole. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Deloire.
Bonsoir.
Vous dirigez Reporters sans frontières et vous vous démenez comme d'autres pour venir en aide aux journalistes afghans qui n'ont pas pu partir, ceux qui ont pu partir aussi et qui est en danger aujourd'hui. On va entendre l'un d'eux d'ailleurs que vous connaissez peut-être dans un tout petit instant qui a réussi à trouver refuge en Irlande. Est-ce qu'on sait d'abord, Christophe Deloire, combien de journalistes ont pu partir, combien sont encore à Kaboul et voudraient partir? C'est un chiffre qu'on peut avoir ça ou pas?
On n'a pas su établir de statistiques précises. Ce qui apparaît, c'est que même si au final, beaucoup de journalistes afghans ont pu partir, y compris vers des pays vers lesquels, généralement, les journalistes qui du Moyen-Orient qui veulent partir en exil ne partent pas. Par exemple, au Mexique, il y en a beaucoup qui sont partis à destination du Mexique, un peu moins à destination de l'Europe, étonnamment. Mais ce qui apparaît de manière encore très claire, c'est qu'en Afghanistan, il demeure de très nombreux journalistes qui auraient voulu partir. Qui parfois ont tenté de le faire. Nous-mêmes, on avait contribué à une opération qui a été une opération difficile à monter, avec une tentative d'évacuation de dizaines de journalistes afghans, avec des cars depuis le centre de Kaboul, et qui malheureusement a échoué du fait des deux explosions à l'aéroport de Kaboul. Il a fallu demander aux journalistes que nous avions incités à monter dans
tout le monde est reparti en arrière, en fait.
À repartir. Et à repartir soit chez eux, soit plus souvent dans les cachettes où ils étaient. Donc, et on travaille toujours à ce genre de choses et on continue à recevoir un flot de nouvelles demandes. Et très récemment, on a fait, alors ça n'est pas un institut de sondage, mais on a auprès d'un certain nombre de contacts sur place posé la question, si vous avez la possibilité de partir, est-ce que vous partirez? Et le taux de réponse positive était faramineux.
Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce qu'il va falloir à un moment comptabiliser tout ça justement? C'est-à-dire être capable vraiment de dire voilà qui ils sont, voilà combien il y en a qui sont sur place pour l'instant et qui n'ont pas pu rentrer, ne serait-ce que pour être sûr qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont encore vivants, qu'ils ne sont pas emprisonnés, etc. Est-ce que c'est aussi un travail qu'il faut commencer à faire maintenant?
Oui, parce que c'est aussi ce qui permettra d'établir un plan de soutien au journalisme afghan, parce que l'enjeu, c'est le plan de soutien. L'élément qui manque encore, même si malheureusement une orientation se dessine, c'est est-ce que le journalisme va survivre en Afghanistan ou est-ce que le journalisme afghan survivra seulement en exil? Pour l'instant, il faut encore travailler malgré une forme de dégradation ces derniers jours, y compris après la nomination du nouveau gouvernement, du nouveau régime afghan. Il faut continuer à soutenir évidemment les journalistes sur place, et ils sont encore nombreux à vouloir y faire leur métier, à tenter. Alors vous le signaliez, pour les femmes c'est extrêmement difficile. Là pour le coup, on a publié des statistiques il y a quelques jours. On avait établi avant le 15 août, c'est-à-dire avant la prise du pouvoir par les talibans, qu'il y avait 700 femmes journalistes à Kaboul. 700. Il y a quelques jours, il n'y en avait plus que 100. Qui continuaient à travailler. Du fait que certaines s'étaient cachées, de crainte des risques, mais aussi du fait des actions très concrètes des talibans qui les empêchaient de travailler, qui vont voir des directeurs de radio en disant « je ne veux plus de musique sur ta radio et je ne veux plus de voix de femmes ». Du fait que des talibans vont à la sortie des rédactions devant les immeubles des médias pour les interdire, pour leur interdire aux femmes de sortir en reportage, ou parfois, au contraire, les interdire de sortir chez elles pour aller à la rédaction. Donc il y a toute une mécanique de répression qui est en train de se mettre en place, qui rend les choses extrêmement difficiles, mais il y a toujours quand même des médias qui survivent, parce que l'Afghanistan, c'était quand même un pays dans lequel s'était construit non seulement une société civile, mais un vrai paysage médiatique. Et c'était admirable, et il y avait même sur la question des violences contre les journalistes, des assassinats de journalistes, qui étaient nombreux, et notamment du fait de Taliban, nous on avait déposé une plainte devant la Cour pénale internationale contre, à propos de ces assassinats de journalistes, mais c'est un pays dans lequel il y avait un volontarisme, et tout ça a été détruit par la prise du pouvoir par les talibans.
Et quelque chose qui s'était construit, moi j'ai lu un chiffre qui disait même que l'Afghanistan était passé devant un pays comme l'Inde, par exemple, en termes de liberté de la presse, qui avait eu, en tout cas, ces deux dernières décennies, des progrès considérables qui ont été faits de ce côté-là, et que, oui, on pouvait... Est-ce qu'on pouvait dire, oui, il y avait une presse parfaitement libre en Afghanistan, jusqu'à il y a encore 10 jours ?
Parfaitement libre, à l'évidence, non. Mais le pays était 122e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. Ça demeurait l'un des pays les plus dangereux
c'est
pour les journalistes
beaucoup,
en termes d'assassinat.
Mais c'est pas si pire, en gros.
Mais c'était par rapport à là d'où venait le pays, à cette fameuse période 96-2001 du pouvoir des talibans, où au fond, il y avait une extinction totale du journalisme afghan en Afghanistan, avec une radio, Radio Sharia, et pour le reste, à peu près rien. C'était un progrès immense qui avait été construit. Il y avait de la part des autorités un volontarisme en matière de protocole sur la sécurité des journalistes, de soutien à l'ensemble des journalistes, notamment aux femmes journalistes. Nous, Reporters sans frontières, on a largement contribué à la création d'un centre pour la protection des femmes journalistes, qui faisait des formations. Tout ça a été aussi soutenu par les autorités, qui lançaient des protocoles pour leur protection. Et malheureusement, ce centre a... Alors, est mort. J'espère vraiment que non. Et on fait tout pour que ce soit pas le cas, pour que le journalisme afghan survive. Mais il y a besoin de plans d'action qui vont au-delà de l'urgence qui a été ces derniers temps et qui demeure pour quelque temps encore de favoriser les évacuations de journalistes afghans, mais qui sont devenus extrêmement difficiles.
Alors on va voir effectivement dans quelles conditions ils travaillent. Tout à l'heure, en écoutant Wilson Fash qui est là-bas à Kaboul et qui travaille aussi effectivement côte à côte avec ceux qui ont décidé de rester, je voudrais d'abord qu'on écoute Nabjid Sharifi, que vous connaissez peut-être, Christophe Deloire, ou en tout cas de nom, qui a travaillé pour tous les grands médias américains. Il a travaillé pour le Washington Post, le New York Times, pour CNN, pour NPR, donc la radio publique, pour la BBC aussi. Il travaille aujourd'hui, il est très actif, il l'était avant de partir pour une organisation justement de type de celle dont vous parlez, qui s'appelle Comité pour la sécurité des journalistes afghans. Il est parti précipitamment, il va le raconter brièvement, grâce au Qatar en fait, avec un stop à Doha. On l'écoute, il s'appelle Najib Sharifi, on se retrouve juste après.
J'ai fait plusieurs essais pour quitter l'Afghanistan, pour aller à l'aéroport par moi-même. Et ça n'a pas marché parce que c'était trop fou, trop dangereux, trop chaotique, cet aéroport. Mais la troisième fois, j'ai été escorté par des gens qui organisaient un convoi. Et c'était mieux ainsi. C'est comme ça que je suis arrivé à Doha, dans un avion de transfert de marchandises, et je suis resté à Doha en attendant un avion vers l'Europe.
Najib Sharifi, vous aviez un point de chute en Irlande où vous êtes ou pas du tout ?
Non, je n'avais aucune raison particulière d'aller en Irlande. C'est le gouvernement irlandais qui m'a proposé. Oui, ils me l'ont proposé. C'est fou, ça, que je sois allé en Irlande. Et donc, je suis là depuis quelques jours. Ça a été une période dramatique depuis 2 semaines. Vous savez ce que j'ai vécu, mais je suis en Irlande désormais en sécurité dans un bon endroit. J'étais un activiste là-bas. Je travaillais pour une organisation très importante pour la sécurité des journalistes. Nous travaillions avec des journalistes dans tout l'Afghanistan. et avec les médias internationaux, avec des organisations internationales. Nous étions la voix contre la violence et, évidemment, j'étais en danger. J'ai été menacé à de nombreuses reprises par les talibans et d'autres aussi. Tout ceci faisait que j'étais vraiment quelqu'un qui risquait sa vie.
À votre avis, combien de vos confrères journalistes ou parmi les gens qui ont travaillé avec vous, combien ont pu s'enfuir ou est-ce que ces chiffres-là sont encore très flous ?
Nous ne savons pas combien de journalistes sont partis et combien sont encore là-bas. Mais la situation pour ceux qui sont restés n'est pas bonne. Ces jours derniers, on sait que des journalistes ont été battus. Très très violemment, torturés, frappés, emprisonnés, détenus. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut constater leur courage face à toutes les difficultés. Ils continuent. Ils continuent à faire leur métier. Ils comprennent que ça a un prix très élevé, mais ils continuent à faire leur métier.
Najib Sharifi, si j'ouvre un journal à Kaboul aujourd'hui, qu'est-ce que je lis ?
Eh bien, vous verriez probablement des photos de talibans, vous verriez peut-être des articles très neutres. C'est très difficile de s'exprimer pour dire ce que vous croyez et ce que vous pensez réellement.
What you really believe and what you really think. But all of this creates a
tout cela crée un terrible climat de peur qui influence la façon dont vous faites du reportage.
Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire de là où vous êtes, comment aider la liberté de la presse en Afghanistan? Est-ce que vous savez déjà comment vous allez agir?
Je suis toujours dans un moment de réflexion. Je réfléchis à ce que l'on va faire. Il est trop tôt pour savoir ce qu'on va faire. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous ferons tout pour sauver les droits humains, la démocratie, sauver les droits des femmes, sauver aussi le travail des médias. Le travail des médias qui était magnifique.
Est-ce que vous pensez que vous reviendrez un jour en Afghanistan ou est-ce que déjà vous vous projetez et vous savez que vous ne reviendrez jamais ?
J'aime mon pays et je voudrais bien sûr y retourner aussitôt que la situation le permettra. Je suis né là-bas, j'ai grandi, ma vie est là-bas, mes souvenirs. Je veux jouer un rôle dans la reconstruction de mon pays, après tout, c'est chez moi.
Home is home, qui dit Najib Sharifi. Christophe Deloire, il y a plusieurs choses dans ce que dit ce journaliste. D'abord, souligner le courage, en effet, de ceux qui ont décidé de rester et décidé de couvrir l'Afghanistan tel qu'il est aujourd'hui. Ça veut vraiment dire quelque chose.
Non, mais je suis vraiment épaté par le courage de certains. Je pense au patron de la rédaction d'une grande chaîne de télé qui racontait, et lui, il est resté là-bas, une bonne partie de ses collaborateurs sont là-bas. Il disait, avant que le gouvernement afghan soit nommé, attendons de voir, on va essayer de... S'il y a un gouvernement inclusif, comme on le disait à l'époque, avec un terme un peu étonnant, puisqu'il est très loin d'autres usages qu'on peut faire dans la langue du terme inclusif. Mais peut-être qu'on pourra avoir un espace. Bon, il a dû être fort déçu avec la composition de ce gouvernement qualifié d'exclusivement exclusif, c'est-à-dire tendance dure des proches du Mollah Omar. Et malgré tout, il continue à travailler depuis. Et certes, il y a un climat d'autocensure qui s'installe, parce que le climat de peur, il provoque l'autocensure. Et aujourd'hui, il y a deux risques équivalents qui sont liés, qui sont l'autocensure et la censure. Et avec un pouvoir taliban qui officiellement a pris des engagements de respecter la liberté de la presse, de protéger les journalistes, dont certains membres dans ce pouvoir essaient, semble-t-il, de faire en sorte que la répression soit la moins forte possible, mais avec quand même une logique de répression massive pour le reste. Et donc sans doute, il doit y avoir une forme de alors, ça n'est peut-être pas un combat, mais en tout cas, il y a des visions différentes au sein du pouvoir taliban, mais sur le terrain, ce qu'on voit... Et la personne interviewée avec qui nous travaillons, ce centre pour la protection des journalistes, il faisait référence, c'est qu'il y a eu des manifestations de femmes, les journalistes qui ont couvert ces manifestations de femmes ont été attaqués,
et tabassés,
battus,
même, ouais.
tabassés, parfois à coups de tuyaux, emprisonnés. Donc il y a eu, dès qu'une scène a déplu aux talibans, dès qu'ils ont voulu éviter qu'elle se retrouve sur les écrans, on a vu avec quelle virulence il y a une répression qui s'est installée.
Et en même temps, il va falloir apprendre, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, en Afghanistan comme ailleurs, et que refermer le pays, y compris dans ces médias comme en 96, sera évidemment autre chose. On va revenir ensemble dans un instant sur ce qui peut se passer après, effectivement, sur comment on organise ensuite une presse libre en Afghanistan ou hors d'Afghanistan. Mais je voudrais qu'on salue Wilson Fash, justement. Bonsoir, Wilson.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, c'est grâce à vous qu'on suit la situation en Afghanistan chez nous à France Inter. Je voudrais justement que vous nous racontiez, vous, dans quelles conditions vous travaillez, vous les journalistes étrangers, si vous vous sentez potentiellement en danger d'être expulsé ou si, au contraire, les talibans sont toujours aujourd'hui dans leur com à l'heure où on se parle, donc on touche pas aux étrangers en fait.
Alors un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste étranger, contrairement à nos collègues afghans locaux, on est beaucoup plus protégé, on a un certain niveau d'immunité qui n'est pas parfait. J'ai pu en faire les frais moi-même, hein, puisque l'hôtel où je me trouvais a été canardé avec une Kalachnikov et j'ai eu des impacts de balles au-dessus de mon lit dans ma chambre. Et alors j'étais pas dans ma chambre à ce moment-là, donc j'étais pas moi visé, mais des témoins m'ont dit que les talibans ont visé un journaliste qui se trouvait juste au-dessus et qui filmait depuis sa chambre d'hôtel les manifestations en bas. Mmh. Donc là, on a quand même un exemple de talibans qui visent expressément des journalistes, et là, en l'occurrence, un journaliste étranger. Donc ça, c'est évidemment inquiétant. Mais je dirais que c'était peut-être une exception, dans le sens où, la majorité du temps, on arrive à travailler dans des conditions correctes. Je pense qu'effectivement, les talibans veulent communiquer, veulent faire passer des messages, veulent montrer un visage agréable, et donc ont un peu peur, peut-être, des journalistes étrangers et de la couverture critique qu'on peut apporter, contrairement à aux journalistes locaux qui, eux, par contre, sont en danger de mort, presque.
Il y a des zones, on va y venir, bien sûr, Wilson, il y a des zones qui vous sont interdites ou pas du tout?
Oui, il y en a quelques-unes. Quand j'ai été chercher mon accréditation chez les talibans il y a quelques jours, on m'a dit que j'avais pas le droit d'aller à l'aéroport international Hamid Karzai, que j'avais pas le droit d'aller dans le Panjshir, qui était l'ultime bastion de la résistance, et que j'avais pas le droit d'aller dans les bases militaires.
Et les journalistes afghans, Wilson, avec lesquels vous travaillez, ceux que vous voyez aussi autour de vous, ceux qui sont restés, comment ils travaillent? Est-ce qu'il y a une forme de protection aussi, la vôtre, au fond, parce que vous êtes aussi là, tous, et vous pouvez filmer également ce qui se passe? C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on sait qu'il y a eu des passages à tabac, on l'a tous vu sur les moteurs de recherche. Donc, comment vous les voyez-vous travailler, eux, par rapport à vous?
Je pense que c'est extrêmement compliqué pour eux, parce qu'ils se sont vraiment, vraiment des cibles, et on l'a vu la semaine dernière avec des journalistes qui ont été arrêtés et torturés. Vous parliez de passage à tabac, moi j'utiliserais plutôt le mot de torture au vu des blessures que j'ai pu voir aujourd'hui, parce que j'ai rencontré l'un de ces journalistes, il s'appelle Taki Daryabi, il a 22 ans, il travaille pour un média afghan indépendant de grande qualité, et lui a été arrêté avec d'autres collègues alors qu'il couvrait une manifestation menée par des femmes en faveur des droits des femmes. Il a été emmené dans le poste de police, et il a été tabassé si longtemps et si durement qu'il s'est évanoui. Et la première chose qu'il a fait, en se réveillant, quasiment le lendemain, c'est de retourner travailler. Donc ça, faut quand même souligner un courage inouï. Et donc là, quand je l'ai rencontré tout à l'heure, je l'ai rencontré dans sa rédaction, où il travaille aujourd'hui, où il a repris le travail, alors même qu'il arrive à peine à marcher, tellement il est encore blessé. Et il me disait qu'il allait continuer à travailler.
Et ce courage, il faut le souligner. Est-ce que vous avez du mal à trouver des gens qui sont prêts à prendre le risque de traduire pour vous? Comment vous faites pour tout ça, Wilson?
C'est vrai que c'est compliqué aussi, parce que là, par exemple, je travaille avec ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire dans le jargon journalistique, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois un guide, un traducteur, un chauffeur. Et donc, cette personne travaille avec moi. Et pour l'anecdote, lui, quand on a commencé à travailler ensemble cette semaine, c'est la première fois qu'il sortait de chez lui en 3 semaines depuis la prise de pouvoir des talibans. Il était resté enfermé chez lui, puis il a accepté de travailler avec nous. Et bon, tout se passe bien pour le moment, je touche du bois, mais c'est vrai qu'on a fait le choix de travailler sur des histoires qui ne soient pas trop sensibles, pas parce que j'ai peur pour moi, mais parce que j'ai peur pour lui.
Merci beaucoup, Wilson, vraiment, de nous avoir raconté tout ça. On aura largement l'occasion d'y revenir, d'en reparler. Faites attention à vous aussi, Wilson, et à ceux qui travaillent avec vous, notamment ce jeune homme, votre fixeur dont vous parliez. Vraiment, merci beaucoup, Christophe Deloire. Comment on organise un après, effectivement? À un moment, il faut une base, en fait, une base arrière. On va être obligé d'organiser une sorte de base arrière. Comment ça s'organise, ça?
La première chose, à brève échéance, c'est qu'il faut obtenir des talibans, le cas échéant via les Qataris, qui laisse sortir les journalistes qui veulent sortir. Et ça, ça demeure un enjeu, et jusqu'à présent, il n'y a aucune garantie. Mmh. Alors, il y a des leviers d'action, notamment les États-Unis ont un levier d'action à travers l'argent. Il y a manifestement une volonté des talibans de présenter une bonne image, mais il faut que les États étrangers, qui certes, dont les moyens diplomatiques peuvent être assez faibles en Afghanistan, mais qui quand même ont certaines armes diplomatiques, les fassent jouer afin de mettre à l'abri tous ceux qui peuvent l'être. Et puis à plus long terme, il y aura la reconstruction du journalisme afghan, si possible en Afghanistan, et ça, ça supposera un plan d'action. Il y a besoin d'une mobilisation de la communauté internationale qui, une fois l'émotion passée, n'installe pas un oubli et ne laisse pas tomber les journalistes afghans.
Et surtout ceux qui sont encore là, effectivement, comme celui dont on parlait à l'instant. Merci beaucoup, Christophe Deloire. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
J'ai pas les feuilles.
La suite ce soir, c'est Sous les radars, Sébastien Legénie.
Avec bonjour, que faire de la dépouille du sanguinaire Abimael Guzman, le fondateur du Sentier Lumineux, est mort ce week-end au Pérou.
Allez, ce sera l'un de vos titres, Sébastien. L'Amérique selon Biden et Sébastien Power. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Ça pique un peu dans le dos de Biden. Ça vient, comme on disait du temps de Chirac dans les guignols, ça vient de son propre camp.
Et à tout de suite, le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La Norvège vote aujourd'hui. Particularité, elle est assise sur un tas d'or, le pétrole. Sauf que voici qu'arrive la question climatique. Dilemme.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par San Francisco avec Marinero qui raconte des chansons, des histoires de son père marin et de sa mère mexicaine. Ça s'appelle Through the Fog. Et c'est dans la playlist de France Inter.
Song is a bay like a blanket of gray and sun poncho. The golden gay waves through a silvery haze to remind you. In a fog, it's hard to see.
De Fog sur France Inter. Sébastien Legénie, mesdames, messieurs, est de retour. Et Sébastien, dans Sous les radars, vous nous emmenez d'abord dans les rues de Lima, au Pérou, où l'on a appris ce week-end la mort de celui qu'on surnomme le Pol Pot des Andes.
La mort d'Abimael Guzman, le chef historique de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux qui a ensanglanté le Pérou pendant 2 décennies. Son combat contre l'armée péruvienne s'est soldé par la mort de 70 000 personnes ou disparues. Guzman, révolutionnaire impitoyable, qui n'hésitait pas à tuer les paysans qui soutenaient pas sa cause, en relant aussi de force des enfants soldats. Il avait été arrêté en 1992, mis en cage sous les caméras du monde entier et purgé depuis une peine de prison en perpétuité. Il est donc mort samedi à l'âge de 86 ans, un décès que sont loin de regretter la majorité des Péruviens. Cet homme, par exemple, interrogé dans la rue, explique que de nombreux Péruviens espèrent que la mort d'Abimael Guzman marquera la fin au moins de sa pensée, une pensée qui a profondément déchiré ce pays. Personnellement, dit-il, je ne suis pas triste qu'il soit mort. Même tonalité avec cette femme, tant de gens sont morts à cause de lui, dit-elle. Des innocents, peut-être quelques coupables, mais il ne méritait pas d'être tué de cette façon. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est aussi un coup pour le Pérou de maintenir en vie pendant tout ce temps une personne qui a fait du mal. La question maintenant pour les autorités péruviennes, c'est que faire de sa dépouille? Elles ne veulent surtout pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage pour ses partisans, rendre hommage au Sentier Lumineux et de toute façon considérer comme de l'apologie du terrorisme au Pérou, c'est condamnable. Le ministre de la Justice a donc proposé que son corps soit incinéré et ses cendres répandues dans l'océan Pacifique.
Allez, direction le Kenya, centre névralgique, Sébastien, de ce qu'on appelle la tricherie universitaire.
C'est un fléau qui ravage les universités du monde entier. La triche, le plagiat et avec le Covid, le phénomène a littéralement explosé. 40% de plus de cas de plagiat pendant la pandémie, par exemple au Québec. En clair, les étudiants n'hésitent plus à faire leurs devoirs par d'autres. Ce professeur d'une grande université américaine confirme que la triche est un vrai problème dans des domaines comme l'économie, les maths ou l'informatique. C'est spécialement le cas dans les matières où il n'y a pas de réponse par oui ou par non. Voilà pour les tricheurs, phénomène désormais bien connu. De multiples scandales ont éclaté ces dernières années. En revanche, on connaît bien moins l'autre côté du miroir. Ceux qui écrivent les devoirs pour les étudiants qui trichent, eh bien une enquête de la BBC nous révèle qu'il y a toutes les chances que ces sous-traitants de la dissertation soient kényans. En quelques années, ce pays d'Afrique de l'Est est devenu la plaque tournante de la fraude universitaire, car le Kenya est un pays anglophone avec un bon système éducatif et peu d'opportunités professionnelles pour les jeunes. Concrètement, un diplômé kényan se fait payer 2 euros la page et produit jusqu'à 15 pages par jour, un revenu 4 fois plus élevé que ce qu'il pourrait gagner au Kenya. Face à ce fléau, plusieurs pays envisagent d'interdire les plateformes qui proposent ces services. L'Australie l'a déjà fait, l'Angleterre y réfléchit également.
On termine, ça n'a rien à voir avec des clones de chameaux à Dubaï.
Oui, figurez-vous Fabienne que c'est une pratique très répandue dans cet émirat, la première chamelle clonée Injaz pour les intimes est née en 2009 et depuis ce sont 10 à 20 bébés chameaux clonés qui naissent chaque année au centre de reproduction biotechnologique de Dubaï. À chaque fois de magnifiques spécimens, un long cou, une lèvre inférieure pas trop pendante, l'idéal pour présenter ces bêtes au concours de beauté. Car la voilà la principale raison Fabienne de cette industrie, des clients très fortunés achètent des camélidés parfaits pour la modique somme de 50 à 100 000 euros environ afin de remporter des compétitions très juteuses. Voilà, le patron du centre de reproduction biotechnologique de Dubaï explique qu'il peut produire n'importe quelle copie génétique d'animaux d'élite, qu'il s'agisse de bêtes de course, de bons animaux laitiers, de taureaux d'élite ou de reines de beauté. Mais actuellement, nous nous concentrons, dit-il, sur les demandes de chameaux. Il faut dire en effet que les chameaux de compétition ont plein d'avantages. Les chamelles peuvent faire du très bon lait ou même de la très bonne viande, très recherchée dans la région du Golfe. Il n'est plus rare, Fabienne, de pouvoir manger du carpaccio de chameau, le saviez-vous, dans les restaurants les plus luxueux.
C'est vrai que c'est ceux qui ont la lèvre pendante qui finissent en carpaccio.
Les carpaccio lèvres, en effet.
Merci beaucoup, Sébastien. Vraiment, fort intéressant, réellement. Vous pouvez vous appuyer sur moi en partant, si vous voulez. Voici Bill Withers, Lean on Me. Ça date de 1972.
Sometimes we know that there's call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on.
Lean on me. Bill Withers sur France Inter. Tiens, en voilà un qui n'a pas que des épaules compatissantes, c'est Joe Biden.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique de Biden et Sébastien Paour. Sébastien, après le fiasco du retrait d'Afghanistan il y a à peine un mois, c'est de l'intérieur maintenant que les soucis arrivent pour Joe Biden.
Ouais, ça vole un peu en escadrille en ce moment pour Biden. C'est la rentrée du Sénat aujourd'hui ici à Washington. Et le président américain espérait qu'il allait pouvoir faire oublier un peu Kaboul au Capitole avec les discussions sur son plan de réforme sociale « Build Back Better », reconstruire en mieux. 3 500 milliards de dollars investis sur 10 ans dans des domaines très différents. Ça va de la lutte contre le changement climatique aux régularisations d'immigrés en passant par des maternelles gratuites. Le montant est énorme. La marge de manœuvre des démocrates pour que ça passe est très réduite puisqu'ils sont 50 sur 100 sénateurs, vous le savez. Et voilà que l'un d'eux, le centriste de Virginie-Occidentale Joe Manchin, dit partout à la télé depuis deux jours qu'il ne votera pas le plan.
On a déjà approuvé 5 400 milliards. On essaie d'aider les Américains par tous les moyens. Et beaucoup de l'argent qu'on a mis sur la table est encore disponible. Et le sera jusqu'à l'an prochain, 2022. Quelle est l'urgence? Ce n'est pas la même que pour le plan de sauvetage.
Il parle du plan de sauvetage Covid approuvé il y a un an et demi et il milite lui pour une enveloppe pour le plan de réforme à 1 000 ou 1 500 milliards. On en reparlera mercredi au Congrès avec les arbitrages des différentes commissions parlementaires.
Alors Biden a un autre fer au feu qui est un peu moins chaud si l'on peut dire, c'est le gouverneur démocrate de Californie qui lui repasse aux urnes.
Oui, nouvelle spécificité de la politique américaine, il y en a beaucoup, qui s'appelle le recall. Une partie des électeurs, 12%, peut les faire rappeler aux urnes, retourner aux urnes. Et c'est donc ce qui se passe demain en Californie. Gavin Newsom, a priori, devrait conserver son siège. La Californie est bien ancrée démocrate. Mais la Maison-Blanche, quand même, a envoyé sur place la vice-présidente Kamala Harris la semaine dernière. Ce soir, c'est Joe Biden qui lui-même y va. Et puis Barack Obama a publié une vidéo, lui aussi, pour soutenir Newsom.
Hello Californians, you've got a big choice to make by September 14th. Governor Newsom.
L'ancien président explique aux Californiens que le gouverneur a passé un an et demi à les protéger du Covid, qu'un républicain à sa place les mettrait en danger. Le risque pour le camp démocrate, c'est que les républicains mobilisent plus et fassent davantage se déplacer les électeurs. On verra ça donc demain.
Alors quelques infos quand même Sébastien, tiens, puisqu'on en parlait sur le front du Covid aux États-Unis.
Alors, rentrée en présentiel pour le million d'écoliers de New York ce matin, plus grand système scolaire du pays. Certains enfants ne sont pas allés en classe depuis un an et demi, donc depuis mars 2020. Dans les entreprises, on embauche de plus en plus des médecins qui sont spécialement là pour conseiller la société en période de pandémie. C'est le cas par exemple pour la banque Wells Fargo qui est en train de recruter son médecin chef. Et puis côté des morts du Covid ici, quelqu'un a calculé le temps qu'il faudrait pour lire les quelques 660 000 noms. Comme samedi, vous savez, à New York pour les 20 ans du 11 septembre, il a fallu 4 heures pour les victimes des attentats, ça prendrait 37 jours pour celle du virus.
Allez, terminons sur quelque chose de bien plus léger, Sébastien, cette histoire de dingue, cette histoire de chat sauvé du stade.
Oui, c'était samedi au Hard Rock Stadium de Miami, match de foot universitaire entre les Miami Hurricanes et les Appalachian State Mountaineers. Écoutez. C'est pas le terrain qui nous intéresse, ça se passe en tribune. C'est un chat qui est suspendu par les pattes à plusieurs mètres au-dessus des supporters. Il est accroché à une sorte de balcon, impossible de le récupérer par celui du dessus. Toute une partie du stade crie, on l'entend là sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. On s'organise en bas pour l'attraper s'il tombe, le chat, et il tombe. Et sur quoi? Devinez. Sur un drapeau américain, évidemment, tendu par plusieurs supporters. L'image est parfaite, c'est le soulagement. On brandit le chat en l'air. On ne sait toujours pas, en revanche, comment il s'est retrouvé dans le stade de foot, ce petit chat.
Ah bah, parce que le chat est fourbe. Il est là où on ne l'attend pas, tiens. Allez, Sébastien, merci, à lundi.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Jean-Marc, la Norvège en Europe du Nord vote aujourd'hui l'opposition de gauche par favorite et pourrait remplacer l'actuelle majorité de droite au pouvoir depuis 8 ans. Mais l'essentiel pour vous se joue à l'arrière-plan. La Norvège est écartelée entre le pétrole et le climat, deux injonctions contradictoires, et c'est votre monde d'après.
Oui, il y a un petit côté fable. Hein. La Norvège se demande en fait s'il ne faut pas scier la branche sur laquelle elle est assise, au motif que sinon, c'est l'arbre dans son ensemble qui pourrait s'écrouler. Pour comprendre, il faut savoir que la Norvège, 5 millions d'habitants, possède une poule aux œufs d'or, son gaz et son pétrole. Il y a 50 ans, c'était l'un des pays en fait les plus pauvres d'Europe occidentale. Aujourd'hui, c'est le plus riche, si l'on prend en compte la richesse par habitant. Tout est lié à la découverte, puis à l'exploitation du gaz et du pétrole en mer du Nord. Caverne d'Ali Baba, aujourd'hui, la Norvège, c'est le troisième pays au monde exportateur de gaz, troisième, neuvième de pétrole. La Norvège produit l'équivalent de 7,5 fois ses besoins en énergie. Le secteur pétrolier emploie 160 000 personnes. Si on rapportait ça à la population, c'est à peu près 2 millions d'emplois en France. Et on ne parle là que des emplois directs. Et puis la manne du pétrole garantit l'État-providence, les prestations sociales, indispensables dans un pays à la population vieillissante. Et cette poule aux œufs d'or a surtout permis la constitution d'une épargne gigantesque, on le sait, 1200 milliards d'euros. C'est le fonds souverain norvégien qui a investi dans toutes les grandes entreprises mondiales. Et le gouvernement n'est pas autorisé à utiliser ces milliards, hein, qui sont une réserve pour l'avenir. Il peut uniquement dépenser les intérêts que le fonds rapporte. Bref, le pétrole, c'est vraiment la bonne fée de la Norvège.
Et donc, patatras, le réchauffement climatique remet tout ça en cause.
Oui, ouais, pendant longtemps, la Norvège a un peu fait l'autruche, fermé les yeux sur la contradiction entre ces deux sujets. Sur le papier, d'ailleurs, tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le pays est donc riche, la production de pétrole continue d'augmenter, le chômage est bas, même la pandémie a été maîtrisée, seulement, entre guillemets, 800 morts. Seulement, voilà, les consciences se réveillent. Le nouveau rapport du GIEC, le mois dernier, a bousculé la campagne électorale en Norvège en lançant une alerte rouge pour l'humanité. Le sujet climatique a dominé les derniers débats, fait apparaître une évidence. Le bilan carbone de la Norvège, forcément, est mauvais. Et puis d'ailleurs, dans la même région du monde, on avait constaté déjà au printemps dernier, au Groenland, le poids électoral croissant des enjeux environnementaux. On en avait parlé d'ailleurs ici même. Les deux principaux partis norvégiens, les conservateurs, les travaillistes, continuent à regarder cette injonction contradictoire pétrole-climat d'un œil un peu distrait. Mais une ribambelle de petits partis écologistes, libéraux ou de gauche radicale voient l'affaire autre. Autrement. À eux tous, ils pourraient atteindre ce soir les 20%, devenir les arbitres d'une future coalition, d'autant que c'est la proportionnelle en Norvège et ce scrutin rend les alliances incontournables au bout du compte. Question d'argent contre question de conscience. Pour la Norvège, qui est un pays marqué par les valeurs du protestantisme luthérien, c'est un sacré dilemme.
Et donc, comment on fait pour sortir de ces injonctions contradictoires?
La question devient centrale en Norvège. Faut-il renoncer en fait à la poule aux œufs d'or? Alors non, pas tout de suite, pas trop vite. Il faut opérer une transition très douce, disent les grandes parties de gouvernement, y compris le favori du scrutin d'aujourd'hui. Le dirigeant travailliste de gauche, Jonas Støre, qui, soit dit en passant, est aussi millionnaire. Et ils ajoutent, si nous renonçons au pétrole trop vite, d'autres augmenteront d'autant leur production pour répondre à la demande mondiale. Et les autres en question, c'est qui? C'est la Russie, l'Arabie Saoudite. Ils n'ont aucune préoccupation environnementale ou si peu. Donc, au bout du compte, le climat sera perdant. C'est un mauvais calcul. Il faut aller vite, très vite, répondre à l'inverse des partis écologistes. Certains d'entre eux vont même jusqu'à demander non seulement l'abandon de tout nouveau projet de forage en Norvège, mais aussi l'arrêt de l'exploitation pétrolière en cours sous 15 ans. Ils préconisent, pour compenser, de booster l'énergie éolienne, d'extraire du cuivre ou du cobalt du sous-sol norvégien pour fabriquer à la maison les batteries de moteurs électriques. C'est à nous de montrer l'exemple, ajoute-t-il, parce que sinon, personne ne le fera. Et nous, nous avons les moyens de le faire, précisément puisque nous avons d'énormes réserves financières. Il est peut-être temps de les dépenser, en tout cas en partie. Cette question de conscience, elle est particulièrement forte donc en Norvège, mais en fait, au bout du compte, elle nous concerne tous, en tout cas dans les pays riches. Sommes-nous prêts à changer de mode de vie, voire de niveau de vie, parce que le risque climatique est trop élevé?
Merci beaucoup Jean-Marc Four. Le monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. On reste bien sûr ensemble. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philippe. Bonne soirée à tous sur France Inter, heureuse de vous accompagner. À tout de suite.